Deuxième partie. Vers l'authenticité du couple. Chapitre 5. Se construire par imitation ou par opposition? Dans les familles fonctionnelles.
Il est nécessaire de faire un détour par le développement du nouveau-né pour rappeler combien la conscience de soi et de son rôle sexuel se construit, dès la naissance, à partir des interactions avec la mère et le père. Le rôle sexuel étant l'ensemble des modèles de conduite associés au fait d'être un garçon ou une fille. Après une période de fusion avec la mère, le bébé cherche à tout prix à s'en différencier progressivement en défusionnant, d'abord pour exister comme individu, ensuite pour exister comme individu sexué. En observant ses parents au quotidien, il va peu à peu prendre conscience que sa mère et son père n'interagissent pas de la même façon avec lui et l'exposent à des stimuli et à des expériences complémentaires essentielles à son développement, mais tout à fait différents. C'est là, entre autres, que l'enfant intégrera progressivement les comportements stéréotypés de ses parents et leurs réponses automatiques à certaines de ses actions. Par exemple, il constate que sa mère, et les femmes en général, recourent plus aux mots, démontre son affection par des caresses et des baisers, etc., alors que son père et les hommes en général expliquent plutôt sa tendresse par des actions concrètes et des activités de jeu et de contact physique. Son observation des interactions entre adultes signifiants de son entourage expose l'enfant notamment à la dynamique du couple parental et lui permet d'intégrer, a fortiori, les règles comportementales censées régir les rapports d'intimité d'une femme et d'un homme. Quels sont les rôles de chacun dans le couple ? Comment communique-t-on au sein du couple de façon quantitative et qualitative ? Comment se résolvent les situations conflictuelles ? Comment s'expriment et se satisfont les besoins de chacun ? À partir de cet ensemble complexe d'interactions, dans le couple parental et chaque parent avec lui, l'enfant va progressivement trouver sa propre identité et, de façon spécifique, sa compréhension du rôle qu'il aura à jouer comme adulte, sur le plan individuel et dans ses relations intimes et sociales.
Dans les familles dysfonctionnelles.
Deux éléments essentiels permettent d'expliquer l'ambivalence d'un enfant à s'identifier à son parent. D'une part, l'enfant n'aime pas ce qu'il voit de la personnalité de son parent et de ce qu'elle lui fait vivre. D'autre part, il réagit à l'absence de disponibilité physique et psychologique de ce parent. Prenons le premier point, ne pas aimer la personnalité du parent et ne pas vouloir s'identifier à lui. Il faut alors distinguer le poids du conscient de celui de l'inconscient dans le refus d'identification. Ainsi, consciemment, un individu est tout à fait capable de dire et même d'affirmer fortement, au moins intérieurement, « Je ne veux surtout pas intégrer ce trait de personnalité de ma mère. Je ne veux pas être comme elle. » Ceci est la volonté donc consciente.
L'émergence de l'identité à l'adolescence.
L'adolescence est particulièrement révélatrice de la présence de conflits intérieurs liés à l'affirmation de sa propre identité. Dans le schéma d'un développement normal, le jeune adulte conçoit de façon positive son parent du même sexe et veut lui ressembler. Il se sent tout à fait à l'aise avec l'héritage parental et adopte globalement ses idées et ses valeurs morales, une perspective de vie libre avec ses propres choix. Ce schéma est de loin le moins répandu. La préadolescence et l'adolescence sont surtout vécues sur un mode conflictuel, même si l'adolescent ne déclare pas ouvertement sa dissidence à ses parents. Dans la majorité des cas, l'adolescent se défend de ressembler à ce parent du même sexe, car il ne se reconnaît pas en ce modèle et ne veut pas devenir un adulte comme sa mère ou son père. Si cette prémisse est identique chez la plupart des adolescents, elle se décline en deux types de réactions et de comportements dans son expression. Soit l'adolescent refuse l'identification, mais s'y conforme par crainte de son parent, par exemple, crainte de ses réactions face à son opposition, crainte de perdre son affection même, surtout si elle est déficiente. Soit l'adolescent se défend de lui ressembler, s'oppose ouvertement et entre alors dans un monde de confrontation marquée pour manifester sa colère et tenter de faire émerger sa propre identité dans un rapport antagoniste.
Refuser de ressembler à ses parents.
Devenu adulte, les deux profils d'individus que je viens de mentionner afficheront en apparence des personnalités tout à fait différentes, mais partageront des caractéristiques similaires. Pour l'adolescent qui se conforme, une colère intérieure envahissante retournée contre lui, et pour l'adolescent en opposition, une colère intérieure tout aussi envahissante, mais extériorisée. tous deux auront une difficulté marquée à s'affirmer sur le plan identitaire. Dans une relation de couple, ces individus vivront sur un mode de protection par lequel ils dissimuleront la plupart du temps leurs idées, leurs besoins réels et leurs désirs profonds avec des excès de colère réprimés ou explosifs. Un deuxième élément permet d'expliquer ce refus d'identification, l'absence de disponibilité physique et psychologique du parent du même sexe. Dans le processus d'identification, la disponibilité du parent est absolument fondamentale. Tous les individus dont les parents ont été absents physiquement disent de façon systématique combien ils en ont souffert. Un enfant aux parents non disponibles va en quelques années en faire le deuil, refuser la proximité par colère, mais perdre bien davantage. La possibilité de s'identifier à lui en retirant le meilleur et partager des expériences de vie positives. Il passe alors à côté de l'héritage fondamental qui écrit son histoire, tels les souvenirs, les idées, les comportements, les attitudes, les compétences, les aptitudes, la nécessité de certaines limites, les expériences, les gratifications, les remises en question, etc. Bref, l'ensemble des éléments essentiels qui sécurisent un individu et participent activement à l'acquisition des connaissances, de la confiance et de l'estime de soi. À cette absence physique, on peut également ajouter l'impact d'un manque de disponibilité extrêmement néfaste au processus d'identification, l'absence de disponibilité psychologique. Notons d'ailleurs que l'une et l'autre des non-disponibilités du parent à l'enfant prennent des formes différentes selon les familles. Ainsi, un parent peut rentrer tous les soirs à la maison, disponibilité physique apparente, mais s'occuper à toute autre chose que de partager des moments avec son enfant, continuer à travailler ou s'asseoir devant la télévision. Non-disponibilité psychologique. Le parent non disponible reste pour l'enfant un modèle peu inspirant auprès duquel, de façon passive et réactive, il va s'employer de loin et avec méfiance à trouver ce qui lui fait défaut et à consolider son idée qu'il ne veut pas lui ressembler. Face à un parent lointain et absent, l'enfant va plutôt choisir l'égocentrisme et le narcissisme, choisir donc de faire primer soi sur les autres. Cette distance avec le parent va également initier chez l'enfant une réflexion quant au couple que forment ses parents.
Une relation aux parents qui prédispose à son futur couple.
Pour s'identifier et être au clair avec son rôle sexuel, un individu doit absolument trouver en ses parents un modèle positif et inspirant qui le projette dans l'avenir et lui donne envie de suivre cet exemple. Malheureusement, parce qu'ils n'ont pas réglé les difficultés psychologiques associées à leur propre histoire familiale, parce qu'ils ont tendance à reproduire les pratiques éducatives de leurs propres parents, les adultes manquent de disponibilité physique et psychologique et deviennent un modèle dans lequel leur enfant ne se reconnaît pas et dont il se défend. Néanmoins, l'identification est un processus incontournable pour devenir adulte. Alors, si les parents ne sont pas un modèle, l'enfant, laissé pour compte, doit se construire par lui-même à partir d'autres sources d'inspiration qu'il va puiser dans le milieu où il évolue au quotidien. Adulte signifiant de son entourage, oncle et tante, grands-parents, parents d'amis, professeurs, entraîneurs sportifs, etc. Ou jeunes adultes de sa propre famille ou encore d'autres familles. Ces derniers deviennent alors de nouveaux modèles d'identification qui peuvent être tout à fait sains pour l'enfant ou l'adolescent en construction. Même s'il est en contact avec d'autres figures parentales, d'autres modèles d'identification, cet enfant aura tout de même à composer avec la réalité de son histoire. En ce sens, il est notamment beaucoup plus susceptible d'adopter un mécanisme de défense de l'ordre du déni pour se protéger de la souffrance du manque des sources d'identification parentale. Adulte, un tel individu entre donc en relation de couple avec une dynamique intérieure dans laquelle il ne lui est pas naturel de considérer l'autre comme une source valable de confiance et de réassurance. Cette fragilité lui fait courir le risque de vivre plusieurs difficultés typiques, dissimuler sa réalité psychologique, entretenir des rapports biaisés, manipuler pour satisfaire ses besoins, fuir les discussions ouvertes, faire des reproches et tenir les autres responsables de ses difficultés, gérer mal ses frustrations, etc. Consciemment, il ressent de plus en plus sa souffrance de ne pas bien savoir qui il est sur le plan identitaire, incapable de verbaliser clairement ses aspirations. Enfin, cet empêchement de vivre une vie de couple harmonieuse le heurte au quotidien, triste de sentir le poids du blocage, déprimé de ne pas savoir quoi faire pour contrecarrer la situation, malheureux de ne jamais vraiment toucher au bonheur à deux.